O capi? Sì. De plus en plus, on constate que bon nombre d'étudiants concilient le travail et les études. Bon nombre d'entre vous vous demandez pourquoi aujourd'hui les étudiants agissent ainsi. Et bien, c'est tout simplement pour gagner de quoi payer la formation universitaire, parce que ça a un coût, hein, la formation universitaire. Je n'en dis pas plus, je laisse plutôt J.R. Longuembo vous en dire davantage à ce sujet, parce que lui, il a été sur le terrain, il a eu rencontré ses étudiants travailleurs un peu partout, notamment dans les différents instituts supérieurs qui existent ici dans la capitale et également dans les universités. Il est là pour mieux vous informer que moi. Bonjour J.R. Longuembo.
Bonjour Nicole, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, pour commencer, dites-nous, étudiants-travailleurs, est-ce une réalité vraiment, vraiment réelle, si je dois me répéter, ici chez nous au Congo?
Justement, nous avions mené une enquête là-dessus, Nicole. De prime abord, disons que c'est effectivement une réalité depuis un certain temps. Certains jeunes étudiants acceptent d'être employés ou embauchés dans une entreprise tout en étant, bien entendu, étudiants. Ils agissent ainsi pour se mettre à l'abri de manque, car selon eux, les conditions socio-économiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que les moyens en leur possession, ne leur permettent pas de couvrir tous les frais académiques. Vous le savez, Nicole, que les études supérieures coûtent, vous venez d'ailleurs de le dire, les syllabus à acheter, les recherches à faire, et il faut s'être abonné dans une bibliothèque, tout ça exige des moyens. Si vous voulez, des moyens conséquents. Eh bien, pour pallier cette difficulté, ces étudiants préfèrent faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire études et travail combinés, à leur risque et péril, bien entendu.
À leur risque et péril, parce que dans bien des cas, ce n'est pas facile, et les conséquences sont parfois l'échec, hein, j'imagine, parce que bon, étudier, travailler, ce n'est pas facile. Mais comment font alors ceux-là qui n'étudient pas, plutôt qui ne travaillent pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui étudie. Vous le direz certainement tout à l'heure aux auditeurs, mais j'aimerais inviter ceux-là qui nous suivent, surtout vous étudiants, à réagir au 081 070 2050. Mais avec vous, JR, puisqu'il faut évoluer sur la question, on aimerait que vous soyez un peu plus concret. Comment s'y prennent-ils concrètement, ces étudiants qui travaillent, en croire ce que vous venez d'avancer? Ce n'est pas du tout facile.
Effectivement, ils ne s'en sortent pas facilement. Combiner études et travail n'est pas une mince affaire, nous l'ont reconnu certains parmi eux que nous avions abordés. Toutefois, avec un peu de volonté et détermination, ils s'en sont bien tirés. Je peux plutôt de suivre ce qu'ils ont partagé avec nous. Il faut d'abord avoir les désirs. Quand vous avez les désirs de faire quelque chose, donc il y a déjà en vous le pouvoir de l'accomplir. Donc c'était ça. C'était une détermination. J'étais déterminé. Je me suis dit, il faut que j'aille jusqu'à la fin de mes études. Il faut que je termine ma licence. Voilà pourquoi. Avec les peu de moyens que nous avons, ce que nous gagnons au niveau du travail, c'est comme ça que ça nous donne le temps de venir payer les frais académiques ici à l'ECT. Mais c'est pas facile. En fait, les avantages, c'est mettre en pratique tout ce que nous prenons. Nous apprenons comme théorie ici à l'Institut supérieur de commerce au niveau des licences, c'est au niveau des travaux pratiques, théoriques. Mais au niveau des pratiques, nous les pratiquons au boulot, là nous travaillons, ça comme avantage. Mais au niveau des inconvénients, c'est peut-être la fatigue, la perte de conscience si vous n'êtes pas vraiment concentré. Moi, j'étais déjà embauché depuis le graduat, jusqu'au maintenant, je suis en train de travailler. J'ai commis les dés, il n'y a pas un problème. Oui, c'est question de mettre un peu du sérieux, beaucoup de concentration, vous allez vous en sortir.
Bon, il y a des amis qui ne s'en sortaient pas vraiment. Et pour récupérer ces amis-là, nous autres qui nous préparions bien, qui disposions un peu de temps pour étudier, nous organisions des groupes d'études les dimanches. Nous retrouvions avec des amis, nous revoyions des leçons et si pendant ces groupes-là, l'expérience, on a constaté qu'il y avait des étudiants parmi nous qui expliquaient le cours mieux que le prof aussi. Et c'était aussi une façon pour nous de pouvoir nous rattraper les autres qui n'avaient pas le temps, suffisamment de temps comme nous.
Des groupes d'études dans certaines universités et instituts supérieurs pour aider ceux-là qui travaillent et qui ne comprennent pas bien les cours, ou encore ceux-là qui expliquent encore mieux que les professeurs, parce qu'on a constaté hier qu'il y a des étudiants qui expliquent mieux que les professeurs, d'après du moins ce que vous avez rencontré. Mais est-ce que notre système éducatif permet qu'il y ait des étudiants travailleurs ici en République démocratique du Congo?
Écoutez Nicole, le système éducatif congolais autorise une double vacation. Vacation jour et vacation soir. Il faut noter que pour la vacation soir, le problème ne se pose pas tellement. Toumba Pierre, professeur et conseiller au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, nous explique.
Voilà, donc vous disiez notre système éducatif a pensé à ce genre d'étudiants qui, le plus clair de leur temps, ils sont en emploi, en activité, et ils ont un horaire qui ne leur permet pas d'avoir les enseignements du jour. C'est pour cela qu'il y a deux vacations, il y a les vacations du soir. Alors, les vacations du soir, ça commence à 18h quand ils ont fini leur emploi, et ça va jusqu'à 20h par là, 21h, évidemment, quand la semaine le permet. Mais quand vous êtes en emploi et que vous cherchez à parfaire votre formation, il vous faut vous armer de beaucoup d'énergie, il faut vous organiser. Et les gens qui travaillent et qui étudient, ils savent pourquoi ils étudient et ils sont généralement parmi de bons étudiants. Hein. Ça peut paraître curieux, mais c'est un peu cela. Et dans l'enseignement public, il y a l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa qui organise ce type d'enseignement. Il y a également, je crois, le CIDES qui, en fait, est attitré pour organiser la formation tout au long de la vie, l'éducation permanente et l'enseignement du soir. Et puis, bon, je crois qu'il y a l'ISTA Kinshasa aussi qui est un peu latent aussi. Voilà.
Voilà, le professeur Ntumba Pierre, que vous avez certainement reconnu, il a dit quelque chose d'intéressant hier. Il a dit que parmi ceux qui étudient et qui travaillent, souvent, ce sont les meilleurs éléments, ce sont de bons éléments, hein, ce sont ces termes que je réemploie une fois de plus. Alors, est-ce que vous avez été également dans les établissements qui organisent la vacation jour? Qu'est-ce que vous avez exactement constaté?
En effet, Nicole, les étudiants travailleurs, il y en a aussi plein dans les établissements qui organisent la vacation au jour. Comment s'y prennent-ils? Écoutez l'un d'eux que nous avions abordé.
Pour concilier le temps du travail et le temps des études, nous avons à notre niveau, en tant que journalistes, un avantage que nous offre l'option que nous avons suivie. Et au niveau de la profession, au niveau de l'entreprise et au niveau de l'institut qui nous encadre. Au niveau de l'IFASIC, l'IFASIC a un programme qui ne prend pas les étudiants tous les jours. Vous avez au moins un jour sur deux, disons trois jours par semaine, où vous êtes à l'institut pour étudier. Et les autres jours, ça vous permet d'être quand même permanent ou de vous présenter au niveau du service. Et au niveau de l'entreprise, nous avons un métier qui est assez libéral. On ne vient pas chaque matin pour signer une liste de présence pour dire que vous êtes arrivé à telle heure ou à telle heure. Prenons le cas de l'Unikin, où vous êtes obligé d'être présent tous les jours, du matin au soir. De lundi à samedi, vous êtes présent pour étudier et tout ça. Et en ce moment, vous ne pouvez pas combiner et les études et le travail. Vous devez forcément abandonner le travail pour vous consacrer aux études. Et c'est pourquoi au niveau de l'entreprise, on reconnaît que quelqu'un qui veut perfectionner son niveau d'instruction, on vous donne une mise en disponibilité pour vous permettre. On vous exclut pas du travail, mais on arrête momentanément votre travail pour vous permettre de vous consacrer totalement aux études.
Voilà, là c'était un étudiant travailleur qui s'exprime au micro de J.R. Lungembo. J.R., je constate que vous avez plus donné la parole aux hommes qu'aux femmes. Et pourtant, il y a la parité homme-femme. Ça aurait été bien d'entendre également le point de vue d'une femme qui travaille et qui étudie à ce sujet.
Oui, la majorité, disons, de ceux-là que nous avons rencontrés, plus ce sont des hommes. En tout cas, 80% parmi les étudiants travailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans ces cas. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité à pouvoir parler.
Vous savez
que les femmes sont parfois réticentes et surtout elles n'aiment pas trop parler au micro. Hein, quand on leur prend le micro, c'est toujours un problème. Elles vendent tout la politique, donc c'est pourquoi ils nous évitent de temps en temps.
J'invite les femmes à agir, à réagir, parce que les femmes qui travaillent et qui étudient, vous êtes les bienvenues en Capi Action pour cette question concernant les étudiants travailleurs. Eh bien, vous pouvez nous appeler au 081 070 25 ans pour témoigner à travers des SMS. Alors, Gérard, on va évoluer sur la question parce que j'ai l'impression que étudier et travailler, c'est vraiment un exercice très difficile.
Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes, disons, n'aiment pas ou ne prennent pas ces risques-là de pouvoir combiner les deux. Vous savez, les hommes sont plus réputés dans cette abnégation, dans ce dévouement, dans cette détermination, mais les femmes, pas trop souvent. Alors, c'est pourquoi ils évitent un peu de pouvoir combiner parce que ça demande trop d'exercice. C'est quand même un exercice difficile. Mais ce qu'il faut retenir, que c'est une équation difficile à résoudre. Je parlerai en termes des risques. Il y en a plusieurs. Il y a risque accru d'abandonner ses études plus tard si on prend goût du travail. Parce que là, finalement, on est étudiant, on commence déjà à gagner un petit rien. On se dit, bon voilà, la vie, on les fait avec l'argent et puis on l'abandonne. Il y a un risque également que l'emploi les empêche de consacrer le temps nécessaire à leur travail, à leurs travaux académiques. Mais en croire ce que les étudiants nous ont dit, on ne peut que conclure ceci. Il y a à boire et à manger. Le professeur Moudibadi, qui est notre invité, éclairera sans doute notre lanterne, car il est mieux placé en tant qu'encadreur des étudiants.
Merci beaucoup, Gérard Nimbo. J'invite encore une fois les étudiants travailleurs à réagir à ce sujet, parce que je crois que vous êtes les mieux placés pour nous dire concrètement qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour améliorer, ou sinon soulager ceux qui étudient et qui travaillent en même temps, parce que tout à l'heure on l'a dit, ceux qui travaillent, ce sont de bons étudiants. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent qu'ils négligent les cours, mais c'est aussi parce qu'ils aimeraient mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école. Gia Lungembo, merci beaucoup de nous avoir présenté ce dossier aujourd'hui dans le cadre de la chronique des étudiants, consacrée donc aux étudiants. Peut-être que prochainement on vous retrouvera pour un autre dossier.
Je vous en prie, Nicole.
Okapi, fréquence de la paix.
Nous recevons le professeur Bodin Bani. Il est professeur à l'IFASIC, autrement dit à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. François Bodin Bani est là pour répondre à vos questions. Je vais lire quelques réactions que nous avons eues dans ce studio. Nous avons par exemple la réaction de John Peter Kesa Moudrou, qui est un auditeur fidèle de Radio Capi à Isiro, qui nous dit « Malgré ses conséquences, le cumul est l'unique moyen par lequel bien d'étudiants se prennent en charge, car la bourse n'existe pas. » S'il existe des étudiants travailleurs en République démocratique du Congo, c'est parce que la condition sociale économique fait défaut pour étudier dans des conditions acceptables. Ça, c'est la préoccupation de Joël Boff depuis Mbandaka. Mathieu Banza Tchoulas, qui est également un auditeur fidèle de Capi Axo, je commence à reconnaître un peu les auditeurs fidèles de Radio Capi, qui nous dit depuis l'Université de Lubumbashi que l'étudiant végète du fait que l'État a décliné ses responsabilités face à celui-ci, qui est censé de se supporter cas de la hausse du prix du loyer sans motif valable. De 6 500, c'est passé à 10 000 francs congolais au campus de Lubumbashi, ce qui pousse aujourd'hui l'étudiant à faire des gardes de nuit, notamment au niveau de Sécuricorps, nous dit-il, le matin et au cours pour satisfaire ses besoins. Manu Kizungu de Luiro au Sud Kivu nous dit « Est-ce que l'État finance les étudiants travailleurs pour les encourager bénéfiquement au pays ?» Nous étudions dans des conditions très précaires, nous dit un autre, d'où nous sommes appelés à faire des extramuroses n'importe où, car l'État congolais nous a oubliés, dit l'étudiant Kaloumé Nicolas Machiavel. Donc les réactions, il y en a beaucoup, beaucoup dans cette émission. Je vous prie, chers auditeurs, surtout vos étudiants, de continuer à réagir au 081 070 2050. On va lire encore d'autres réactions tout à l'heure, mais d'abord donnons la parole à François Bodimbani, professeur à l'IFASIC, qui est là. Bonjour professeur.
Bonjour.
Nous apprenons. Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs, professeur Bodimbani. Nous apprenons qu'il y a de plus en plus ici, en République démocratique du Congo, le phénomène, en fait, les étudiants travailleurs, ce qui amène un nouveau phénomène, c'est le phénomène étudiant-travailleur. Comment, au niveau de l'IFASIC, vous, en tant qu'enseignant, vous arrivez, comme qui dirait, à accepter ce nouveau phénomène ici à Kinshasa?
C'est un nouveau phénomène de société dû au fait que l'État a supprimé les subventions à l'enseignement, les bourses d'études ne sont plus payées depuis les années 70-80, et que les étudiants dont les parents sont pauvres ne savent plus subvenir totalement aux besoins de l'éducation et de la formation de leurs enfants, et bien, ceux qui sont adultes et en mesure de travailler, de prester quelque part, cherchent à combler le déficit de revenus familiaux. Et ça, ben, ça a des implications sur le bon avancement de l'enseignement, parce qu'on a des étudiants qui ne sont pas totalement étudiants, mais qui ne sont pas non plus totalement travailleurs. Et là, ça pose un problème de rentabilité, tant dans le milieu de l'emploi que dans le milieu de l'enseignement de la formation.
Vous voulez dire, professeur, qu'à l'époque où il y avait des bourses d'études pour étudiants, il n'y avait pas ce phénomène qu'on observait en RDC?
Non, il y avait des jobs de vacances, à la limite. Un étudiant travaillait pendant les vacances pour chercher un peu de revenus personnels, mais le Minerval, les frais de scolarité étaient supportés à 100% par les parents.
Oui.
Bon, depuis qu'on a supprimé ces subventions à l'enseignement, donc les bourses, et depuis que les parents ne sont plus payés, comme je l'ai dit, convenablement, les étudiants doivent, ceux qui ont la volonté d'étudier, ils doivent chercher des moyens pour continuer à étudier.
Mais pour vous, professeur, constatez que dans votre cours, par exemple, vous ne remarquez qu'il n'y a que 10 étudiants, alors que normalement vous avez peut-être 50 étudiants, du fait que bon nombre travaillent. Comment réagissez-vous? Comment arrivez-vous à accepter cela?
Mais généralement, moi sur ce cas, je réagis en disant aux étudiants qu'ils doivent faire profession d'étudiant entier, à part entière. Et qu'on ne peut pas avoir des étudiants qui s'absentent des cours. Un bon étudiant sait ce qu'il veut, comme un étudiant, il s'inscrit, il s'astreint à la discipline et aux horaires de l'enseignement, et dans ce cas-là, il prend des engagements en dehors des heures de cours pour pouvoir travailler et obtenir des revenus pour sa propre ses besoins.
Oui,
mais un étudiant qui prend un contrat de travail quelque part à temps plein, mais il n'est plus étudiant, il doit choisir. Et ça perturbe totalement la pédagogie. Parce qu'on enseigne, oui, effectivement, comme vous l'avez dit, à un auditoire de 12 étudiants alors qu'il devrait être 80. Bon, les autres sont en train d'apprendre. À la séance suivante, vous ne savez pas si vous devez reprendre la matière de la première séance ou continuer. Mm. Et quand vous arrivez à l'examen, les résultats sont catastrophiques.
Et
quand les résultats sont catastrophiques, on pense que c'est le professeur qui a mal enseigné.
Et pourtant, tout à l'heure, professeur Boudindani, si vous le permettez, on a eu à suivre le point de vue de certains étudiants travailleurs et même des responsables qui nous ont dit que dans bien des cas, ce sont de bons étudiants. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent qu'ils négligent des cours.
Je souhaite que des étudiants... j'ai entendu tout à l'heure un de vos intervenants qui disait qu'il travaille la journée et il étudie au soir à l'Institut supérieur de commerce. Ça, c'est convenable. Donc, il travaille comme comptable ou je ne sais pas quoi, pointeur dans une entreprise et le soir, il performe sa formation. Ça, c'est logique. Et ça, il n'y a aucun empiètement entre les heures d'enseignement et les heures de travail. Mais ceux qui font des combines pour s'absenter soit des lieux de travail, soit s'absenter des salles de cours, ils sont en train de faire de l'à-peu-près. Et je condamne, moi personnellement, sur ce plan-là, moi je préférerais des étudiants qui savent s'organiser pour être à la fois à temps plein comme étudiant, et alors aux heures libres, ils cherchent à trouver des moyens pour financer leurs études. Ah, ce sont des bons étudiants et des étudiants intelligents.
Oui,
mais sinon, les autres, c'est des bricoleurs et qui préfèrent alors, dans certaines institutions, jouer au trafic d'influence, à acheter des cadeaux aux professeurs pour que le prof oublie qu'ils se sont absentés des cours et qu'ils puissent mieux les coter. Dans ce cas-là, on dit que ce sont des bons étudiants. Mais je doute qu'ils soient des bons étudiants.
Un bon étudiant, point de vue, hein, professeur,
c'est d'abord un étudiant régulier, ponctuel, assidu et qui ne s'absente pas des cours.
Voilà, ça c'est votre point de vue. Je ne sais pas si tous les professeurs partagent votre point de vue. On va lire quand même quelques réactions des étudiants. Travailler, justement, aujourd'hui, ça nous aide parce que nous arrivons à payer nos études, nous dit Justin Kabungi depuis Kisangani. Ce n'est pas seulement en Ituri, c'est partout qu'on réforme. Bon, ça c'est un autre sujet qu'on a eu abordé tout à l'heure dans cette émission. Et on va lire encore la réaction de Joseph Kayembe depuis Kananga qui dit « Les étudiants doivent combiner les études et le travail car les études en RDC coûtent cher et ne sont pas des, des, des boursiers. La vie d'étudiant travailleur, c'est vraiment difficile, nous dit un auditeur. Il faut savoir gérer son temps et ce n'est pas toujours facile. Vous avez suivi tout à l'heure peut-être la réaction de cet étudiant, je vais peut-être revenir là-dessus. Il nous dit, s'il existe des étudiants travailleurs en RDC, c'est parce que les conditions sociales et économiques font défaut pour étudier dans des conditions acceptables. C'est Joël qui nous l'a dit depuis Mbandaka. Donc finalement, on retient que dans la plupart des cas, beaucoup d'étudiants qui travaillent, ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils souhaitent aussi payer leurs études. Aujourd'hui, la vie économique est arrivée à un tel niveau que ça devient difficile aux parents de payer les études de leurs enfants, raison pour laquelle bon nombre travaillent. Alors aujourd'hui, à l'IFASIC, par exemple, nous savons que la plupart des cours sont en rapport avec le journalisme. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser de manière à permettre à beaucoup d'étudiants de mettre en pratique ce qu'ils apprennent à l'université et comme ça le soir ils peuvent suivre le cours. Il n'y a pas moyen d'organiser cela comme cela se passe par exemple à l'ISC?
Bon, je ne peux pas singulariser le cas de l'IFASIC, ni de l'ISC non plus. Mais ce que je veux dire, bon, je parle sur le plan des principes. Sur le plan des principes, ça signifie qu'il faut avoir un étudiant totalement étudiant, quitte à ce qu'il travaille pour chercher à combler l'insuffisance des revenus familiaux. Mais d'autre part, je constate, comme j'ai dit, qu'il n'y a plus de financement des bourses, en matière de bourses pour étudiants, mais d'autre part, il y a eu un manque de politique de formation dans les entreprises. Par le passé, les entreprises stimuler leurs agents, les plus méritants, à aller poursuivre une formation, avoir une certaine technicité, afin de revenir. Et on les mettait en disponibilité. Et ils avaient certains avantages, et leurs études étaient financées par les entreprises. Tout cela a disparu. Et bon, dans les conditions actuelles, on a la pratique que l'on connaît et des étudiants ont l'excuse de dire qu'il y a des conditions difficiles. Mais je dis, ce n'est pas une situation tenable. Le bon étudiant, c'est celui qui sait organiser son temps pour être totalement étudiant, quitte à ce qu'il travaille en dehors des heures de cours, des heures de TP, des heures d'examen. Mais un étudiant qui doit travailler le jour où il y a un examen, il vient deux jours après pour dire « j'étais malade », donc il était en train de mentir, mais il présente des certificats bricolés, achetés, ci et là, et des certificats médicaux, et il se fait interroger. Mais ça ne va pas, ça nuit sur le niveau d'ensemble de l'enseignement. Et
oui,
il faudrait pouvoir trouver des solutions
ben justement,
globales.
Oui, alors aujourd'hui, on constate qu'il y a un problème.
Faire d'à peu près.
Professeur Bonibani, aujourd'hui on constate qu'il y a un problème, c'est que la majorité, en tout cas une bonne partie des étudiants travaillent. C'est qu'il faudrait changer peut-être ou organiser les enseignements autrement.
Là aussi, je peux dire, ça ne dépend pas ni des institutions d'enseignement, dans leur fonctionnement actuel, dans leur structure actuelle, de créer des programmes de cours du soir. Il y a le pouvoir organisateur, l'État, qui met souvent des balises, mais je crois que c'est une piste, hein. Pour dire, on fait des programmes de formation l'après-midi ou le soir, et il y a des étudiants réguliers qui viennent en journée. Ceux qui sont travailleurs peuvent suivre des cours le soir, mais il faut augmenter le nombre de personnel, augmenter les locaux, motiver les enseignants. Si ce sont les mêmes, ils seront surchargés d'enseigner en matinée, d'enseigner l'après-midi, le soir,
mais nous savons
sans repos.
Mais professeur Bouzindani,
à la politique globale de l'éducation et de la formation.
Mais pourtant,
tant qu'on n'a pas une bonne politique globale de l'éducation et de la formation, préparer les cadres, préparer la relève, augmenter le nombre d'enseignants, mais aussi financer l'enseignement comme il faut.
François Bouzindani,
encourager les étudiants, il y en a qui sont très brillants, pas de secondaire. On leur donne des bourses. Bon, j'ai constaté qu'il y a un projet en cours de bourse d'excellence. Bon, c'est un début peut-être pour remettre, mais ce n'est pas encore assez.
François Bonimani, juste une précision. Nous savons que de nos jours, Il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas le temps d'enseigner. Et à la place, ce sont les chefs de travaux ou encore les assistants qui donnent les cours. Alors, il n'y a pas moyen d'organiser cela également à ce niveau aujourd'hui, parce que bon, du fait que les professeurs n'ont pas peut-être le temps d'enseigner la journée, ils peuvent le faire le soir et vice-versa.
Non, quand vous affirmez, je ne sais pas si vous détenez les statistiques, les rapports que les professeurs n'enseignent pas et ce sont les chefs des travaux, je crois que vous voulez dire que dans certaines institutions, il n'y a pas de professeurs et que c'est les chefs des travaux et les assistants qui enseignent.
Tout à fait cela.
Ah, c'est vrai. C'est là que je parlais de politique de formation de la relève, de la formation des éducateurs pour que les universités aient une forte expansion. Sous la Seconde République, on a bloqué le mécanisme en créant 3 universités qui aujourd'hui montrent leurs limites. Mmh. Très peu d'enseignants, trop d'étudiants, une surpopulation d'étudiants qu'on ne sait pas encadrer. Et il n'y a jamais eu de politique de formation, d'assistants, de nouveaux profs. Et là, on est coincé. Bah, les professeurs, il faut voir combien ils sont occupés, sollicités effectivement dans la plupart d'universités privées qui se sont créées et qui ont été agréées par l'État.
En fait, les professeurs aussi cumulent. C'est ça le problème. Les professeurs aussi cumulent. Ils enseignent dans plusieurs universités. Alors finalement...
Mais parce qu'il y a manque de professeurs. Donc il ne faut pas pouvoir rejeter la faute sur ceux qui donnent de leur temps à former la jeunesse. Non, non.
On en reparlera, professeur Boudimani. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'IFASIC. Merci encore et à la prochaine.
Au revoir.